Donc, je disais, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de l'efficacité de la prière, vous n'en doutez pas, bien évidemment, mais on a plutôt vu ça sous un autre angle, notre engagement dans la prière, parce qu'on est dans des circonstances, aujourd'hui, au niveau mondial, au niveau personnel, très compliquées, très difficiles, et on se faisait la réflexion, il y a quelques dimanches de cela, on ne connaît pas ou plus de familles, croyants ou pas croyants, qui ne connaissent pas des galères et des difficultés par-dessus la tête. C'est invraisemblable. Tout ce qui tombe ainsi sur la tête des gens, et dans l'Église même, régulièrement, on apprend de tristes nouvelles, des nouvelles qui font de la peine, des nouvelles qui sont tellement affligeantes, et on ne veut pas accepter ça. On ne veut pas que ça reste comme ça, on ne veut pas que ça... être enterré sous une tonne de difficultés, de problèmes, sans relever la tête. Alors, on a la prière. Évidemment, c'est l'arme la plus efficace. C'est la prière. Nous savons qu'elle surpasse, évidemment, tout raisonnement et qu'elle remporte toutes les victoires. Alors, on a parlé de la prière, de la nécessité de prier, que c'était véritablement capital. La semaine dernière, nous avons abordé, plutôt sous l'angle pentecôtiste, du parler en langue et de la nécessité de parler en langue. Paul qui dira « Je parle en langue plus que vous tous ». Celui qui parle en langue parle à Dieu, mais il s'édifie lui-même. Et par des soupirs inexprimables, combien de fois l'Esprit a ainsi béni bien des requêtes. Quand on ne sait pas quoi demander, il vient à notre secours. Et là, je reviens sur cette vision-là de la prière, parce que c'est littéralement une vision, hein, c'est une question de vision. C'était le thème, d'ailleurs, il y a 15 jours de notre message. C'est une question de vision. Mais j'ai voulu quand même aller jusqu'au bout de ma pensée en vous signalant que ce n'est pas qu'une question de vision. Ça ne suffit pas. On a besoin d'autre chose que de la vision à proprement parler. Et on va lire un texte dans le deuxième livre des Rois, chapitre 13, du verset 14 au verset... J'ai noté 25... Deuxième livre des Rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches !» Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira une flèche. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches, celles qui restaient. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joacaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. On parle du peuple d'Israël, bien sûr. Hazaël, roi de Syrie, mourut et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joacaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joacaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit trois fois et il recouvra les villes d'Israël. Amen. Dans cette histoire, il y a un intermède. Je vais tout de suite en parler, comme ça on n'en reparlera plus. J'ai quand même voulu le lire, mais le verset 20 et 21, ça ne fait pas partie de l'histoire, le verset 20 et 21. Élisée est mort, il a été enterré. Et on aurait dû reprendre l'histoire d'ailleurs au verset 22, mais il nous est dit une particularité, quelque chose de très surprenant. C'est qu'un jour, alors que Élisée est mort depuis pas mal de temps, il est enterré. Un jour, on emmène un mort vers un sépulcre, et puis on est attaqué, il y a une espèce d'embuscade, on est attaqué, on est embarrassé parce qu'on a le mort dans les mains, on ne sait pas trop quoi en faire, et il y a un sépulcre qui est là, on ne sait pas forcément à qui il est, mais on va jeter, imaginez donc, on va jeter le mort pour essayer de vite prendre son arme, se protéger, essayer de se défendre pour ne pas mourir. Et la Bible dit, curiosité, que le corps va rouler jusqu'à aller toucher les os d'Élisée. Sont des os, et il nous est dit qu'il va reprendre vie. La vie va revenir dans cet homme qui était mort. Tout ça pour dire, s'il fallait une explication plus précise, que même si l'homme de Dieu meurt, le Dieu de l'homme de Dieu ne meurt jamais. Et c'est un Dieu de vie. Et Élisée, tout au long de son ministère, n'a cessé de parler de la puissance de Dieu, de l'action de Dieu, de ce que Dieu était capable de faire. Et quoique mort, le message demeure. Quoique mort, il parle encore, c'est ce qu'on dira du sang d'Abel qui avait été versé en son temps. Quoique mort, il parle encore. Donc, d'une certaine manière, c'est important ce nœud central, parce que ça nous permet de comprendre que l'échec de Joas au début va avoir des répercussions après, mais quel dommage. Il était parti vers une victoire totale et il s'en est totalement privé, et je trouve ça dommage. Voilà pourquoi je me suis permis de dire que finalement, c'est quand même pas qu'une question de vision, la victoire ou la défaite. Il faut autre chose derrière cela. Il faut comprendre quelles étaient et quelles ont été les causes de l'échec de ce fameux Joas. Pourquoi ? Il ne battra pas les Syriens jusqu'à leur extermination, mais pourquoi il n'obtiendra d'eux que 3 victoires pour ensuite être à nouveau confronté à des difficultés ? Le personnage central de ce récit, c'est pas Élisée, c'est encore moins Joas, vous l'avez compris. Le personnage central, c'est Dieu dans cette histoire. C'est Dieu qui fait une promesse. C'est Dieu qui dit à Joas, qui met dans le cœur de Joas d'aller trouver Élisée. C'est Dieu qui met dans le cœur d'Élisée de ne pas s'attarder sur les salamalecs de Joas, mais plutôt de l'encourager à obtenir encore une victoire avant que lui-même ne meure, avant que lui-même ne s'en aille. Donc, c'est Dieu, le personnage central. Mais on s'aperçoit que, malgré tout, Dieu ne fait pas son œuvre grâce à nous, mais il l'a fait précisément malgré nous. Ça pourrait aller mieux, ça pourrait être bien plus fort, ça pourrait être bien plus puissant, mais tout ce qui met des obstacles, eh bien, c'est nous, bien souvent, c'est nous qui freinons, c'est nous qui ne voyons pas clairement les choses, c'est nous qui ne saisissons pas ce que Dieu veut faire, comment Dieu veut le faire. Alors, on va comprendre pourquoi Joas a réagi de cette manière-là et pourquoi Élisée s'est mis en colère contre lui. Je trouve que, soit dit en passant, je trouve que Dieu est assez gentil avec Joas. Joas ne méritait peut-être pas autant de grâce, autant de miséricorde, autant de bonté, mais il est évident qu'Israël et Joas n'iront pas vers une victoire hypothétique simplement parce qu'ils le méritaient. On s'aperçoit que Joas sera un personnage pas formidable parce qu'il va marcher sur les traces de son père qui lui-même avait suivi les traces du premier roi de ce royaume coupé en deux, d'une partie Juda, de l'autre côté ce qu'on appellera les tribus d'Israël, le royaume d'Israël. Et le premier de ces rois-là s'appellera Jéroboam. Et ce fameux Jéroboam, ben c'est pas un gars agréable, c'est pas quelqu'un qui a sanctifié le peuple, loin s'en faut. Je me rends compte, là encore, que la miséricorde de Dieu va au-delà de nos capacités, et Dieu merci, heureusement. Et même si 10 fois je n'ai pas cru, et même si 20 fois j'ai arrêté de prier pour telle et telle chose, Seigneur est là pour nous encourager ce matin en disant « il faut reprendre, et il faut y retourner, parce que Dieu peut encore faire quelque chose, Dieu peut encore agir, et Dieu peut encore bénir ». J'en reviens à Jéroboam, parce qu'on s'aperçoit que les erreurs quand elle s'enracine dans, je vais dire, les traditions, les habitudes, c'est excessivement dur à les faire partir. Et finalement, Joas a eu l'exemple de son père, qui était un mauvais exemple, il a fait comme son père. Qui lui-même avait eu l'exemple de son propre père, qui avait été un mauvais exemple, etc., etc. Donc on remonte loin comme ça. On se demande pourquoi d'ailleurs, après avoir vu et entendu de mauvais exemples, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu l'envie de changer ? Dites, c'est pas parce que personne le fait qu'il ne faudrait jamais le faire. En ce qui concerne la prière, par exemple, en ce qui concerne la consécration, en ce qui concerne la sanctification. Certains vous diront, on n'a pas trop l'habitude de faire comme ça chez nous, alors s'il vous plaît, ne faites pas comme ça. Non, non, au contraire. Si on veut changer une mauvaise habitude pour une bonne, ne vous en privez surtout pas. Hein. Ne vous en privez surtout pas. On s'aperçoit que Jéroboam a quand même bien scié la branche sur laquelle le peuple d'Israël reposait. C'est un homme qui a été trompeur, c'est un homme qui a été séducteur, il a été intrigant, il a vraiment fait de mauvaises choses. Et on trouve cela d'ailleurs dans le premier livre des rois, si ça vous intéresse de comprendre comment les choses sont venues. Premier livre des rois, au chapitre 12 et à partir du verset 28, je vous cite. « Après s'être consulté, le roi Jéroboam fit deux veaux d'or. Et il dit au peuple, « Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Ça rappelle un certain Aaron, quelques siècles auparavant. « Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan, deux villes donc du sud. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. » Jéroboam fit une maison des hauts lieux et il créa des sacrificateurs. Il créa des sacrificateurs, pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi, puisqu'ils étaient de l'autre côté, et essentiellement du côté du royaume de Juda, en fait. Il établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Le quinzième jour du huitième mois, moi qu'il avait choisi de son gré, il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. J'ai résumé à l'écran ce que cet homme a fait. Il crée une religion de complaisance, qui leur conviendra très bien. C'est pas la peine de courir jusque là-bas. Vous fatiguez pas. Regardez, on a fait la même chez nous. On a fait la même religion chez nous. C'est plus la peine de partir. C'est pas dit clairement. Ou dans d'autres textes, c'est dit assez précisément. Pourquoi Jéroboam fait ça ? C'est politique. C'est juste politique. Parce qu'il se dit que si, comme chaque année, il y avait des fêtes. Si le peuple retournait à Jérusalem régulièrement pour aller célébrer les fêtes, est-ce qu'un jour il ne se serait pas dit, finalement on est bien à Jérusalem, hein, si on ne rentrait pas à la maison, si on restait là? Et lui s'est dit, je vais perdre mon influence. Il faut que le pays soit coupé en deux. Et pour qu'il soit coupé en deux, ben, on coupe toutes les connexions. Donc on coupe le réseau Internet, on coupe les lignes téléphoniques, on coupe tout. Il ne faut plus qu'ils aient de rapport avec les autres. Et comme ça, ils se contenteront de ce qu'on leur fait ici. C'est exactement le plan de marche de Jéroboam. C'est terrible quand même. C'est terrible. Il fracture le pays en deux. Il installe l'idolâtrie. Je me demande, et certainement vous aussi, vous vous demandez, mais comment est-il possible que le peuple avale non pas un, mais deux veaux d'or ? Il y en avait eu un à la sortie de l'Égypte, quand le peuple sera dans le désert, que Moïse devra grimper sur la montagne pendant 40 jours et que pendant ce temps-là, le peuple s'impatiente en disant « Ce Moïse est parti, nous ne savons où il est maintenant. » Et se tournant vers Aaron, ils vont le supplier en disant « Mais fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Ça a été une tragédie, hein, parce que quand Moïse est quand même redescendu, qu'est-ce qui s'est passé ? On a broyé ce fameux veau d'or. On a jeté cela, réduit cela en poussière, on a jeté cela dans l'eau et on a fait boire au peuple. Mais il y a eu des milliers de morts ce jour-là, parce qu'on s'était levé pour faire la fête, on s'était levé pour se réjouir. C'était épouvantable cela, épouvantable. Seulement, le temps a passé, Et comme à cause du père, à cause du grand-père, à cause de l'arrière-grand-père, ça faisait pas mal de temps qu'on avait tiré sur la corde. La sanctification, on ne comprenait plus trop ce que c'était. Alors quitte à aller un petit peu plus loin, on continuait. Et nous voici maintenant bien enferrés dans nos problèmes. Ils vont prendre ces veaux d'or. Jéroboam choisit des prêtres. Il les nomme lui-même. C'est incroyable. Ce n'était pas du tout ses attributions, jamais l'attribution du roi. Et hors tribu de Lévi, d'ailleurs. Et puis, il va instaurer un nouveau calendrier des fêtes, etc. Bref, c'est très populaire. Ça marche. C'est un discours populiste. On entend ça aujourd'hui avec les élections. C'est populiste, ce discours-là. Eh bien, ça a eu du succès. Mais en fait, c'est une horreur. C'est juste une horreur. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est quelque chose d'épouvantable. Avec Joaz, on est quand même 100 ans plus tard. 100 ans plus tard. Mais Joaz, il est curieux, ce Joaz, parce que je trouve qu'il est blanc et noir à la fois. Il est trouble. Joas, c'est un personnage un petit peu surprenant parce que l'erreur perdure et lui, il s'en contente. Il s'en contente. Ce que je trouve invraisemblable, c'est qu'il désobéit à Dieu par la pratique de l'idolâtrie, par la pratique de tous ces espèces de sacrificateurs, etc. Mais donc, il renie Dieu. Mais il va pleurer sur la mort de l'homme de Dieu. C'est bizarre quand même. Il renie Dieu par ses actes de tous les jours. Par contre, quand Élisée va mourir, alors il est en pleurs et il voudrait le garder, il ne devrait pas mourir, etc. C'est un homme étonnant. Peut-être un petit peu faussaire d'ailleurs, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui aura encore une occasion extraordinaire. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, bien-aimé. Dieu est un Dieu de miséricorde. Vous avez arrêté de prier pour des personnes parce que ça fait 15 ans que vous priez pour elles et elles ne veulent pas se convertir. Et vous dites, ça ne sert à rien, maintenant j'arrête. Non, n'arrêtez jamais. Dieu est un Dieu de miséricorde. Même s'ils ont fait pique au pendre, ce n'est pas à vous d'en juger, c'est Dieu qui en jugera. Non, ne renoncez jamais. Finalement, Dieu veut encore faire grâce à Joas. C'est incroyable. Alors que Joaz arrive, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, alors qu'il réalise cela, que bientôt il n'y aura plus d'homme de Dieu, visiblement il n'y aura plus de prophète. Là encore, Dieu dit à Élisée, bénis-le, bénis ce peuple. Je ne l'ai pas rejeté, je ne l'ai pas renié, je veux encore le bénir, je veux encore leur faire du bien. Et c'est toute l'histoire de prends un arc, une flèche, ouvre la fenêtre, tire ta flèche, frappe contre terre, etc. En fait, il peut saisir une occasion inespérée de se défaire de son ennemi. Alors, je suis désolé pour le calendrier, parce qu'on parle de la Syrie et des Syriens. Ça m'embête profondément avec la situation actuelle, donc rien à voir, évidemment, avec le contexte géopolitique actuel. On va rester dans ce contexte de l'époque, d'accord ? Mais à cette époque-là, ce n'était pas juste un caillou dans la chaussure, c'était une épreuve continuelle. Les rois de Syrie étaient constamment en guerre contre les rois d'Israël. Et un coup je te gagne, un coup tu me gagnes, je te prends des villes, je les récupère, etc. Bref, ils s'en sortaient jamais. Et Dieu a décidé de mettre un terme à ce conflit. Dieu a décidé de délivrer une bonne fois pour toutes Israël. Dites-moi, est-ce que vous croyez que Dieu peut nous délivrer une bonne fois pour toutes de ce qui nous entrave ? Est-ce que c'est possible ? Certains pensent qu'on peut être délivré, et puis si ça revient 2-3 ans après, on a eu 2-3 ans de répit. Mais zut, pourquoi pas une bonne fois pour toutes ? Pourquoi pas en être totalement débarrassé ? On peut parler de la maladie, on peut parler du péché, on peut parler de la convoitise, on peut parler des mauvais penchants, on peut parler de toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit une lutte constante sans jamais une réelle victoire ? Dieu peut donner la victoire. Et Dieu a décidé de les en débarrasser pour de bon, pour toujours, enfin, débarrasser au moins de cet ennemi-là. Ce ne sera pas le seul, d'autres ennemis s'étaient fait jour. Et d'ailleurs, il nous est dit qu'une autre fois, le peuple d'Israël devra vaincre Amalek, qui était l'image du combat de la chair, jusqu'à son extermination, une bonne fois pour toutes. Donc c'est la volonté de Dieu, évidemment, de nous donner des victoires. Mais vous savez pourquoi Joaz va rater ? Ah oui, vous savez pourquoi je l'ai écrit en rouge. Je n'aurais pas dû l'écrire. Vous savez pourquoi Joas a raté la victoire? Parce qu'il n'a pas vu. Il n'avait pas la vision. C'est le détail qui est surprenant. Le prophète, mettez-vous à la place de cet homme, on va se mettre de l'autre côté. Il pleure, le prophète va s'en aller. Et là, le prophète ne discute même pas avec lui, il lui donne des ordres. Tu ouvres la fenêtre, tu prends l'arc, tu prends une flèche, tu tires une flèche, tu prends les autres flèches dans ta main et tu tapes contre terre. Alors bon, il s'exécute une chose après l'autre, mais les unes après les autres. J'ai presque envie de dire que finalement, Joas est un très bon exécutant. Il n'y a aucun doute, mais il n'a pas la vision. Parce que dans le fond, Élisée se met en colère après qu'il ait frappé 3 fois par terre. D'ailleurs, vous avez remarqué, Élisée lui dit « Tu battras les Syriens 3 fois, pas jusqu'à leur extermination. » Non, 3 fois. Et on a poursuivi la lecture jusqu'au dernier verset où il nous est dit qu'il a repris tout ce que les Syriens avaient volé, les villes, etc. Il a tout récupéré, pas de problème. Sauf qu'il ne les a battus que 3 fois. Et comme souvent l'histoire est un éternel recommencement, qu'est-ce qui va se passer? Il est fort possible que dans quelque temps, les villes qu'il avait reprises aux Syriens, qui eux-mêmes les avaient déjà volées à Israël, ben, ils risquent de les reperdre encore parce qu'on reviendra encore. 3 fois. C'est ballot quand même. Hein. Il avait une victoire potentiellement totale à portée de main. La colère d'Élisée, j'ai réfléchi sur la colère d'Élisée. Pourquoi est-ce qu'il se met en colère? Mais il donne la réponse lui-même. Il dit, mais pourquoi tu t'es arrêté de frapper? Tu aurais dû frapper 5, 6 fois. Là, tu les aurais battus jusqu'à leur extermination, mais tu les battras que 3 fois. Alors, on essaye d'imager la scène. Il a frappé 3 fois. Est-ce qu'il était fougueux? Est-ce qu'il était rempli de zèle? Ou est-ce que c'était un peu, bon, allez, 3 fois, toc, toc, toc. C'est bon? J'ai bien fait mon boulot? J'ai bien fait le travail? Il est irrité, il disait. Il est en colère. Il est vraiment en colère. J'ai presque envie de dire que quand la promesse a été faite, parce que n'oubliez pas que avant de tirer la flèche, etc., il y avait une promesse. Tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Et après, vas-y, frappe contre terre. Soit dit en passant, s'il les bat une bonne fois pour toutes, il n'aura même plus besoin des flèches. Tu peux les user, les flèches, tu peux les taper contre terre, jusqu'à avoir le bras las de frapper contre terre. Mais voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas de motivation. C'est un bon exécutant, oui. Mais il ne regarde pas plus loin, il ne semble pas plus excité que cela. Pas plus heureux que cela. C'est une flèche de délivrance. C'est certainement la bataille la plus importante de sa vie. Mais voilà, il a raté. J'ai mis à l'écran, ce n'est pas la vision qui conditionne les promesses et le succès. Mais je crois que ce sont les promesses qui conditionneront, qui nourriront, qui développeront la foi, puis la vision, puis les succès. Comprenez? Je peux avoir une vision. Mais si cette vision, elle est décalée par rapport à ce que Dieu veut faire, ça ne marchera pas. Là, Dieu essaye de donner à cet homme une promesse. Tu vas battre les Syriens. Mais lui, il ne voit pas. Déjà, la vision, elle est trouble pour lui. Et puis, il n'y a rien d'autre derrière, pas beaucoup de motivation. Non seulement il n'a pas la vision, mais en plus, il ne fera qu'exécuter ce qu'on lui dit. Il n'y a rien d'autre. Élisée est en colère par si peu de foi. Élisée est en colère peut-être par si peu d'élan, si peu d'engouement, si peu de joie. Il aurait dû, je ne sais pas, en entendant cette parole, tu vas les battre jusqu'à leur extermination, mais il aurait dû sauter jusqu'au plafond, tellement il aurait été heureux. Ça aurait dû générer quelque chose en lui. On a l'impression que c'est plat. Ce n'est pas un électroencéphalogramme, ou alors il est spirituel, il est un peu plat, hein. Il est un peu plat. Il y a rien, ça suscite, ça provoque rien. La dernière fois que vous avez lu ce verset, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai », qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Qu'est-ce que ça a provoqué? Est-ce que l'électro est resté plat? Ou est-ce que ça a galvanisé votre cœur? Souvent, ça tient qu'à ça, parce que c'est des paroles qu'on connaît, on les connaît tellement bien. On les a tellement dites, on les a tellement proclamées, on les a tellement annoncées, On a parlé de la prière en disant « ça ne peut pas durer comme ça, il faut que ça change ». Mais je reste persuadé, évidemment, que dans ce domaine-là, il y a des batailles à mener, et puis d'autres batailles qui sont certainement moins importantes. Je me pose la question, Joaz, est-ce que tu comprends ce qu'Élisée est en train de te dire ? Est-ce que tu as compris ? Peut-être qu'il n'a pas compris. Peut-être qu'il n'a pas saisi, il n'a pas réalisé. Alors, plaise à Dieu que personne ne quitte ce lieu sans comprendre quel est le but, évidemment, de la vision que Dieu pourrait nourrir dans notre cœur, appuyée sur des promesses, et tout cela va nous amener à un engagement réel. D'ailleurs, c'est un peu triste, peut-être un peu ironique de dire cela d'ailleurs, mais il a frappé trois fois, et Dieu lui dit « tu les battras trois fois », et en fait, il lui a été donné selon sa foi. C'est triste quand même, hein. Il lui a été donné selon sa foi. S'il avait frappé plus que cela, il aurait obtenu plus. Frères et sœurs, frappons plus pour obtenir plus dans la bataille, dans la prière. Allons-y un petit peu plus si on veut obtenir davantage. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Maintenant, évidemment, il y a des batailles et je voulais aborder ce volet. Ça me paraît important. Il y a des batailles qui sont inutiles ou alors qui sont risquées. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 2, du verset 18 au verset 23, il est question d'une guerre civile. Le peuple d'Israël est en guerre interne, donc, et puis ça se bat férocement. Le roi David, qui n'est pas encore totalement installé sur le trône, fait face à des ennemis de l'intérieur. Donc il y a des révoltes, il y a des chefs qui se lèvent pour prendre le royaume, etc. Et évidemment, entre armées, on se bat. Et il nous est dit, donc chapitre 2 du deuxième livre de Samuel au verset 18, « Là se trouvaient les trois fils de Tseruja, Joab, Abishaï et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner. » Azaël, c'est un jeune. Abner, c'est un général de guerre. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite et à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Azaël ?» N'oubliez pas qu'ils se connaissent. Ils ont servi dans la même armée jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui a voulu prendre le pouvoir et ça a été un coup d'État et il y a une partie de l'armée qui s'est séparée, qui est partie de l'autre côté. Donc, ils se font la guerre. « Est-ce toi, Azaël ?» Et il répondit, « C'est moi, Abner. » Et Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Azaël, « Détourne-toi de moi, pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je en terre ? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab ? » Et Azaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière, il tomba et mourut sur place. Azaël aurait jamais dû mourir. Remarquez, c'est un conflit, c'est une guerre, on ne peut pas dire ça, mais bon, en tous les cas, il n'aurait pas dû mourir dans cette bataille-là. Parce que lui, il veut un trophée, la tête d'Abner. Ça, c'est un trophée. Ça va lui valoir une médaille, hein, certainement. Qu'on va lui donner une bonne médaille de guerre. Mais Abner, c'est un vieux loup de mer, c'est un guerrier. Il sait très bien que le jeune homme ne l'attrapera jamais. Et s'il s'approche trop près, il défendra sa vie et il va tuer le jeune homme. Il ne veut pas le tuer. Ça aurait pu être son fils, il ne veut pas le faire. Alors il essaye de l'encourager en lui disant, « Regarde, à gauche, à droite, prends quelqu'un d'autre, ne continue pas vers moi. » Et lui, obtus, têtu, il est dans son combat, hein. Il est dans sa bataille. Il n'a qu'une vision devant lui. C'est celle de remporter cette bataille-là. Il y a des batailles, frères et sœurs, qui sont inutiles. Des batailles qui sont dangereuses et qui sont risquées. Comme il a les pieds légers, c'est-à-dire comme il a manifestement une qualité pour courir plus vite que les autres, il n'entend plus les avertissements. Il n'entend plus. Et la leçon, c'est qu'il va mourir. Un peu plus tard, d'ailleurs, au verset 26... Même Abner va convaincre Joab, qui est l'autre général, en face, qui est le frère de celui qu'il vient de tuer. Et il va lui dire, « L'épée dévorera-t-elle toujours ? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin ? jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ? En fait, on a scellé l'armistice ce jour-là. Mais il a fallu que l'un d'eux dise, il faut qu'on arrête de s'entretuer. Si on continue à s'entretuer, on ne va pas s'en sortir. Ça ne va pas calmer Joab pour la petite histoire. C'est qu'un moment plus tard, il gardera dans l'esprit que Abner a tué son frère et il va le faire revenir, soi-disant pour lui parler, et là, lâchement, il va l'assassiner. Bon, Joab était spécial aussi. Mais le fait est que là, ils ont trouvé la paix en arrêtant de s'entretuer. Ça m'amène à cette réflexion. Vaincre, oui, mais dans quel but et pour quelle raison ? Je me suis posé la question, pourquoi recherchait-il, Hazaël recherchait-il à vaincre Abner ? Est-ce que c'était pour installer la paix ? Ou est-ce que c'était pour, on va dire, sa gloire personnelle ? J'ai tué le général adverse. Est-ce que c'était ça ? Est-ce que c'était pour calmer le jeu ou est-ce que c'était dans un esprit de pouvoir, de domination ? Parce que vous revenez de la guerre avec des trophées comme ça, vous montez en grade, hein, certainement. Qu'est-ce qu'il cherche ? En tous les cas, pas la bonne bataille. Évidemment, pas la bonne bataille. Ça, ce sont des combats inutiles. Et quelquefois, d'ailleurs, je me dis qu'on s'est trompé de combat, même dans la prière, parce que le combat n'était pas juste. Le combat était totalement inutile. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait prier. Par contre, et je mets en parallèle et je terminerai avec cela, évidemment, il y a des combats qui en valent la peine. Vous connaissez l'histoire de Jonas. On en a reparlé il y a peu. Jonas, le tempétueux, hein, l'impétueux qui a fini... vous savez où il a fini, Jonas ? Dans l'eau, hein. Et la tempête s'est arrêtée quand, finalement, Jonas a senti sa conscience le reprendre et qu'il s'est humilié devant Dieu. Mais quand même, je mets en parallèle Jonas, vous connaissez très bien l'histoire, il ne veut surtout pas aller à Ninive. D'ailleurs, entre parenthèses, Ninive, c'est là où ils sont en train de se battre à Mossoul. Hein. C'est ça, hein. C'est cet endroit-là, hein, à quelque chose près. Donc, il ne veut pas du tout aller à Ninive parce qu'il n'aime pas les gens de Ninive. Il veut même que Dieu les condamne. Il veut même que Dieu les élimine de la terre. Donc, il va s'enfuir à l'opposé. Dieu va le ramener par un drôle de TGV, hein, mais il va le ramener au bon endroit. Il faut que tu ailles de l'autre côté. Donc, il y va quand même. Et puis, toute la ville se repent. Vous connaissez le récit. Ce qui met dans une colère noire Jonas, parce qu'il savait que Dieu était un Dieu de miséricorde, et l'air de dire « tout ça pour ça, tout ça pour rien ». Tu pouvais me laisser à la maison, de toute façon, tu voulais les sauver, c'était pas la peine de me faire passer par l'océan, par les abîmes, pour me cracher sur une terre, pour que je sois obligé d'y aller. Dieu veut sauver Ninive. Mais je crois que Dieu veut sauver Jonas. Je crois que Dieu veut sauver Jonas aussi. Sauver de son état d'esprit. Hein. Parce qu'il n'y a pas que les Juifs qui iront au ciel. Hein. Lui, il n'en voulait pas des Ninivites au ciel. Hein. Aucun, s'il vous plaît. Et Dieu dit, ben, les 120 000, ils iront. On va tous les envoyer. Ils iront au ciel. Je veux les sauver. Il faut qu'ils changent de mentalité, Jonas. Hein. Vous imaginez ? Ne pas prier pour tel cas, telle situation, tel peuple, tel... Parce que ce sont des voyous, des méchants, des... On va être confronté à un problème, frères et sœurs. Ce n'est pas un problème, mais une réalité beaucoup plus cruelle avec les migrants. Hein. Eh oui. Il faut les accueillir. Il faut les accueillir. Je sais que c'est tendu hein, dans la région. Et pas que dans la région. Il faut dire peut-être que le choix, la manière dont c'est fait, c'est peut-être pas formidable. Tous ceux qui, les 10 000 qui vont partir de Calais à peu près, là, on va les installer en une semaine, tout va être réglé. Ça paraît compliqué quand même. Donc, comment on va prier demain ? Comment on va prier après-demain ? Quel va être le centre de nos motivations dans la prière ? On a peut-être besoin, là aussi, que notre vision s'élargisse. Mais je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'une question de vision, c'est aussi une question de mission. Quelle est la mission de l'Église ? Quelle est notre mission ? J'ai mis en parallèle Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Ils ont été appelés comme ça dans les évangiles. Hein. C'est même dans deux évangiles que c'est rapporté. Vous connaissez les récits, Marc notamment, et dans Luc. Mais dans Marc, c'est Jacques et Jean. Donc Jean vient vers Jésus en lui disant, « Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Avec eux, c'est avec nous ou avec personne. C'est comme ça que ça marche. Assez intransigeant. Et un peu plus loin, dans l'évangile de Luc, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ben, à ce rythme-là, il n'y aura plus beaucoup d'opposition. Hein. C'est quoi la mission ? C'est d'éliminer les adversaires ? Ou c'est de faire en sorte qu'ils deviennent des amis et que l'ennemi devienne ami, mais plutôt frère et sœur ? La vision, c'est bien, mais si vous n'avez pas la mission, vous allez vous égarer. Vous allez vous égarer. Et la mission sans la vision, ça ne collera pas non plus, forcément. Finalement, Dieu a voulu sortir Jonas de son amertume, de sa colère. Ça a pris du temps et, bon, c'était un phénomène. Hein. Mais quel est le vrai problème, finalement ? Quel est le vrai problème chez Jacques, Jean, Jonas et peut-être chez quelques-uns d'entre nous ? Quel est le vrai problème ? Le vrai problème, c'est peut-être mon ressenti. Comment je ressens les choses ? Comment Jonas ressentait les Ninivites ? Comment Jacques et Jean ont ressenti l'humiliation de ne pas être acceptés dans un bourg des Samaritains ? Ils se prennent pour qui, ceux-là ? On est avec le Fils de Dieu, on s'en va vers Jérusalem. D'ailleurs, on était là avant vous. Les Samaritains, ils avaient été amenés quelques siècles auparavant, etc. Ils se sentaient chez eux, les Palestiniens d'aujourd'hui. Hein. Donc, quel est mon ressenti ? Ben, ils le vivaient très mal. Quel est mon vécu ? Évidemment, il y avait un passif. Pour Jonas, il y avait un passif. Hein. Parce que s'il n'aimait pas les Ninivites, c'est que les Ninivites avaient fait des choses épouvantables contre le peuple d'Israël. Évidemment, il y avait un passif, mais quand même. Est-ce que ça suffit pour mettre finalement ma mission au service de ma vision, alors que ça doit être le contraire, ma vision au service de ma mission, la mission que j'ai reçue de Dieu. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, annoncer l'évangile à toute créature. Quels sont mes intérêts ? Quelles sont mes motivations ? Pour Jacques, Jean et Jonas, on peut répondre. Vous pouvez répondre, certainement aussi. Alors dans le fond, Dieu voulait sauver Ninive et Jonas, et même ce bourg des Samaritains, et Jacques et Jean, ils voulaient les sauver tous. Alors, ce n'était pas qu'une question de vision. Eux, leur vision était assez étriquée, était assez étroite. Ils en avaient oublié la mission. Aller annoncer le royaume de Dieu. Frères et sœurs, je terminerai sur cet aspect-là de la prière, en vous disant que oui, il faut prier, Néhémie l'a fait parce qu'il a dit que ça ne pouvait pas continuer de cette manière-là, et Dieu merci. Face au paralytique, comment est-ce qu'on le voit ? C'est une question de vision. Comment est-ce que je vois ce boiteux ? Est-ce que j'ai rien à lui donner ? Oui, Pierre et Jean avaient quelque chose à lui donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il a été guéri instantanément. On a choisi ces exemples volontairement, mes frères et sœurs, et je termine là-dessus. Il y a la vision, mais n'oublions pas la mission aussi. N'oublions pas quel est notre rôle, ce que Dieu nous a demandé de faire, à quoi nous sommes confrontés, quel est le but de notre marche avec Dieu. Souvenez-vous de Joas. Il a frappé 3 fois, il s'est arrêté. Mon pauvre, pourquoi tu n'as pas frappé 5-6 fois davantage ? Tu les aurais battus jusqu'à leur extermination, c'était terminé, le problème était réglé. Manque de persévérance, manque d'envie, manque de motivation, manque d'engouement, manque de quelque chose, manque de foi certainement. Que Dieu nous garde. De manquer de foi, on en manquera toujours. Hein. Mais que tous les jours, notre foi soit plus forte. Que tous les jours, notre foi soit nourrie. Je répète ce que je vous disais. Ce n'est pas la vision qui conditionne les promesses de Dieu. C'est d'abord Dieu qui fait les promesses. Et ces promesses-là vont nourrir, entretenir, développer, conditionner notre foi. Et tout cela va élargir notre vision. Et tout cela va nous donner du succès. Que Dieu nous donne de voir des guérisons miraculeuses. Amen. Jusqu'aux situations les plus épouvantables. Que Dieu nous donne la victoire. Et que ce ne soit pas simplement une quête sans fin. Une quête sans fin. 3 victoires. On a repris les villes. Demain, il me les reprendra. Je les lui reprendrai après-demain. Et on recommencera jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne. Non. Il faut qu'il y ait là un virage, un tournant, dans notre conception de notre service pour Dieu, certainement, ou en tous les cas dans notre volonté d'aller chercher ces victoires-là dans la prière. Notre Dieu est un Dieu de victoire. On l'a chanté tout à l'heure. Un Dieu de victoire, et nous croyons que lui a tout accompli. Amen. Allez, on se lève ensemble et on invoque Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour l'opportunité que tu avais donnée à Joaz. Je veux te remercier parce que tu lui as donné encore la possibilité d'être béni. Tu lui avais donné encore la possibilité d'être au bénéfice d'une expérience unique, d'une expérience extraordinaire. Et de la même façon, tu vas nous placer encore aujourd'hui, demain et dans les jours à venir, devant des défis, des situations où nous pourrions vivre pour la dernière fois cette situation conflictuelle, pour la dernière fois cette situation bloquée, et tu pourrais nous donner la victoire, la guérison, la délivrance pour ces bien-aimés. Alors je prie que tu viennes nourrir encore notre foi, que tu viennes nourrir notre cœur avec cette vision qui s'élargira, comprenant jour après jour à quoi tu nous as appelés. Merci d'avoir rattrapé Jonas dans sa folie. Merci d'avoir arrêté Jacques et Jean dans leur folie. Merci de ne pas nous laisser les rênes de toute décision, mais merci parce que c'est quand même toi qui dirige et qui mène les choses. Alors merci parce que nous voulons entendre ta voix, comme le disciple, le bon disciple, tous les matins, entendre ta voix et faire ce que tu attends de nous. Merci de ta bienveillance, merci de ta grâce, sauve encore. Tout à l'heure, nous nous réunirons pour annoncer ta parole, qu'il y ait des miracles, je t'en prie, des miracles puissants, retentissants, qu'il y ait la puissance de Dieu qui amènera à des convictions de péché. Glorifie-toi, nous t'en prions, glorifie-toi. Merci pour ta grâce, merci de nous raccompagner dans ta paix et d'éclairer encore nos cœurs si besoin, si tout n'est pas totalement saisi pour chacun d'entre nous. Permets-nous d'aller plus loin et permets-nous de mieux te servir. Tu nous raccompagnes dans ta paix, tu bénis les familles que nous représentons et tu auras béni ceux qui n'étaient pas avec nous. Tu leur auras donné grâce et secours encore. Que ton nom soit béni. Amen.